Homme autonome de Damien Robitaille. Alors, il en fait des choses tout seul, Damien. Quel beau thème pour introduire notre sujet, le « do it yourself », on le fait soi-même, et je reçois donc l'autrice, sociologue, collaboratrice à l'émission « Ça prend un village » Radio-Canada. C'est une passionnée du Japon également, et on l'a entendue à Au fil du temps à notre épisode du 13 octobre, et moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Valérie Harvey. Bonjour!
Bonjour, bonjour!
Alors, qu'est-ce que ce phénomène-là du « do it yourself »
Ben en fait, on appelait ça faire à la main, hein. C'est dans l'ancien temps, on n'avait pas le terme do it yourself. Ça, c'est un petit peu la façon de le rendre in aujourd'hui. Mm-hmm. Mais moi, j'aime beaucoup l'automne parce que tous les automnes, je me souviens de ma grand-mère. Mes parents partaient toujours en congrès en automne. Puis j'allais donc habiter quelques jours chez elle. Mm-hmm. Ça sentait bon l'automne, hein? C'est la saison des canages. Elle faisait du ketchup aux fruits, du ketchup aux tomates vertes. Écoute, elle était toujours dans la cuisine. Ça sentait, là, c'était des odeurs qui aujourd'hui restent. On sait que les odeurs, c'est quelque chose qui reste longtemps quand on est un enfant. Donc, quand je me compare avec ma grand-mère qui faisait tout ça, qui faisait tout à la main, qui savait faire de la couture, je me dis, mon Dieu Seigneur, qu'on ne sait plus rien faire aujourd'hui.
Ben, si Ricardo nous dit pas comment faire...
Ouais, c'est ça! On va voir Ricardo, mais encore, c'est pas pire, maintenant, on nous Ricardo. Mais ouais, c'est côté cuisine, côté couture, tu sais, il y a même des grands-mères qui faisaient eux-mêmes leur savon, là. Donc, il n'y avait pas d'épicerie qui importait les légumes des États-Unis pour qu'on ait des choses tout l'hiver. Donc, c'est ça qu'il fallait penser à faire des conserves. Puis, il y avait des caves à patates aussi, hein, pour mm-hmm. entreposer des légumes racines. Mes grands-pères aussi, il y avait beaucoup de travail, hein. Il fallait qu'ils installent des barrières, il fallait qu'ils changent les fenêtres d'hiver. Moi, je me souviens de ça pendant un bout de temps. On l'a fait chez nous aussi quand j'étais petite. Il fallait tu sais, quand on avait la famille qui s'élargissait, là, l'arrivée de jumeaux, puis qu'il fallait construire une nouvelle chambre, bien, l'extension, on la construisait. On faisait venir la famille élargie, puis une fin de semaine, puis c'était fait.
Une œuvre collective.
Une œuvre collective, puis on faisait même son propre alcool.
Ah oui, il y a de l'alcool de patate et autres.
Ah oui, exactement. On a toutes des histoires à propos de tout ça. Mais ça, justement, le point sur l'alcool, ça m'amène à la petite nuance qu'il faut donner. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il n'y avait pas juste des avantages à faire soi-même les affaires. L'alcool folâtré, ça a quand même tué beaucoup de monde dans les campagnes. C'est pour ça qu'on a fini par interdire d'en fabriquer. Le gouvernement a mis des lois, là, puis c'était rendu interdit d'en faire. Puis c'est la même affaire avec les remèdes de grand-mère. Hein. On se soignait à la maison parce que ça coûtait cher faire venir un médecin. Puis on avait beaucoup d'enfants, donc beaucoup de petits problèmes, parce qu'aujourd'hui, on en a deux, puis on sait ce que ça veut dire. Donc, quand t'en avais 10, t'avais une diversité de choses à traiter, je dirais. Donc, on avait des choses qui, effectivement, ont fait leur preuve encore aujourd'hui. Le clou de girofle, on l'emploie, hein, le gingembre, le vinaigre pour toutes sortes de petites choses, donc c'est encore utile. Mais il n'y avait pas juste des bons remèdes. J'ai trouvé des choses que c'était un petit peu
questionnable. Racontez!
Oui, hein, la sève de vigne, c'était pour traiter les affections des yeux. Bon, ça, c'était plus superstitieux, mais au moins, ça faisait pas de mal. Mais on avait de la fécule de maïs pour traiter les fesses irritées de bébé. Ça pouvait augmenter l'irritation. Donc, vraiment, pas à conseiller. Puis, j'ai même lu dans le journal La Presse qui conseillait de traiter une brûlure en l'exposant à l'ardeur du feu quelques instants.
Ah, quand même! On est quasiment proche des saignées, là!
Ouais, ça s'appelle traiter le feu par le feu. Mon père disait, si t'as mal, tu t'es fait une petite brûlure sur le doigt, je vais te piler sur le pied, tu vas voir, ça va te passer. Bon,
tu vas avoir mal pour quelque chose.
Non, mais parce qu'il voulait, ça voulait dire changer le mal de place. Ouais. Mais disons que les remèdes de grand-mère ou toutes les affaires qu'on faisait soi-même sont devenues un petit peu plus difficiles quand on a eu des systèmes d'égouts partout dans les villes, mm-hmm. quand on s'est mis à avoir l'électricité dans la maison. C'est pas tout le monde qui est un électricien, puis c'est pas tout le monde qui est capable d'être un plombier. Donc là, la salubrité puis la sécurité de ces affaires-là un petit peu plus complexes c'est devenu important de déléguer à ceux qui avaient ces compétences-là. Donc ça a commencé un peu comme ça, la perte de l'autonomie, si on veut, mais aussi le fait que faire la cuisine, faire la couture, ça prend du temps. Puis, on a moins ce temps-là. Maintenant que les enfants vont à l'école longtemps, hein, souvent les filles plus âgées pouvaient aider dans la maison, pouvaient aider à la cuisine. Maintenant, c'est moins le cas. Les garçons étaient à la campagne, puis ils aidaient au champ, ils aidaient à faire les récoltes. Tu sais, on sortait les enfants de l'école pour cette période de temps-là. Mais quand on s'est mis à avoir des enfants qui fréquentent l'école plus longtemps, avoir des familles plus petites et des femmes qui travaillent, ben là, des enfants qui n'ont jamais appris à cuisiner, ça s'est mis à exister. Des adultes qui n'ont jamais appris à rapiécer un bras de troué aussi. Donc, on a cette idée-là qu'aujourd'hui, on est moins autonome qu'avant, mais je dirais qu'il faut aussi nuancer cet aspect-là parce que on est très autonome, mais dans d'autres champs. Par exemple, les gens ont inventé des emplois. Hein? Je ne sais pas, mais moi, je te parle de ma chambre en ce moment, c'est-à-dire que je peux faire de la radio, et je le savais le faire avant la pandémie, là, à partir de mon ordinateur. Donc, je suis très, très habile avec les multiples logiciels, puis ben, j'aide mes parents à le devenir. Donc, tu sais, on voit qu'il y en a qui ont appris à programmer, ils font leurs propres jeux vidéo. Ça peut donner des emplois. Il y en a qui publient leurs livres parce qu'ils sont capables de monter tout ça. Ils font de la musique, puis ils enregistrent tout ça aussi. Donc, on a une autre forme d'autonomie, mais elle n'est plus nécessairement dans le champ, domestique, si on veut, et pas de la même manière, en tout cas.
Mais en même temps, Valérie, j'aurais tendance à dire, là, avec le confinement qu'on a vécu, il y a eu tout un courant, là, vers le retour à une forme d'autonomie et d'indépendance, parce qu'on n'avait pas
Exactement.
envie d'être pris, justement, de se sentir.
Oui. Puis
Oui.
combien de photos de pain maison on a vu passer? Alors non, vraiment, soit les gens ont été forcés de s'y mettre, soit ils ont eu envie de le faire, donc de retrouver cette autonomie-là, de planter leur petit jardin aussi. Je te dirais que c'est une mode qu'on voit parce que ça a été une mode avant d'être une obligation. Pendant le confinement, c'était plus une obligation presque. Mais depuis une dizaine, quinzaine d'années, justement le DIY, donc do it yourself, fais-le toi-même, est devenu une mode hein, plus in. Donc on a vu apparaître des sites web, des Instagram. Vraiment des gens,
Pinterest qui est bien
oui,
rempli d'idées.
qui nous montrent comment faire. Puis ça rejoint aussi un souci écologique, puis de s'éloigner de la consommation,
Absolument.
de passer du temps pour faire des choses, pour y donner de la valeur. Donc, je trouve que c'est une belle façon de récupérer le fait à la main. Puis, ben, j'espère que ça va donner naissance à plein de capacités nouvelles chez la jeune génération.
Ben, c'est merveilleux. Et de votre côté, qu'est-ce que vous faites à la main?
Moi, je suis surtout la personne plus côté informatique. J'ai monté des livres aussi moi-même, des choses comme ça. J'ai fait de la musique aussi. Mon chum puis moi, on a fait la chanson. Mon chum compose, donc on a fait enregistrer nos propres musiques. Puis je te dirais que dernièrement, à cause de la pandémie, mon chum s'est même mis à la plomberie. Donc, il a changé un robinet de lavabo. Donc, oui, on a développé nos compétences pendant cette pandémie.
J'ai remarqué qu'il y a une association entre le fait main et l'amour. Je vais
Oui.
donner un exemple de ma famille. Souvent, bon, dans les repas familiaux, on fait les fameux potlucks. Et je me rappelle une fois avoir apporté quelque chose d'acheté. Et une de mes sœurs m'a dit, ben, tu t'es pas donné la peine. Et pour moi, je ne comprenais pas le lien qu'elle faisait. Puis en creusant, je me suis rendu compte que pour elle, c'était associé à l'amour. Le fait de l'avoir fait à la main, c'est une manière de dire je t'aime.
Hey, c'est beau ça. Je pense que c'est vrai de la même manière que je pense que plusieurs personnes l'ont redécouvert cet été en plantant son jardin, en prenant le temps de voir tout ça pousser, puis en prenant soin. Il y a une autre saveur à ces légumes-là, qui sont peut-être moins chics qu'à l'épicerie, hein, parce que acheter tout fait, c'est parfait, c'est bien souvent, mais qui a une valeur de temps. Moi, en tout cas, c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on cultive sur notre balcon avec les enfants, puis je trouve que c'est beau ça, qui aiment particulièrement nos petites tomates qui poussent sur le balcon, parce que ce sont nos petites tomates, parce qu'ils ont arrosé. Puis effectivement, faire les choses soi-même, ça apporte une valeur à soi, est-ce que tu as fait pousser, ou ce que tu as cuisiné, ou est-ce que tu as fait de la couture, hein, donc ça peut être moins bien fait, mais je te dirais qu'il y a une charge émotive que n'a pas les choses que tu vas acheter à l'épicerie, là, c'est clair.
Mais en même temps, j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui vit pratiquement en autarcie, vraiment dans
Oui.
son monde à lui. Puis je lui disais, moi, je valorise l'expertise. Donc, je me dis, je suis bonne dans ceci, donc je peux faire un troc de talent, mais il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas de talent et je n'ai pas envie d'apprendre, alors je préfère laisser ceux qui ont ce talent-là s'épanouir et moi leur offrir des choses. Et lui...
Bien, c'est pour ça que je pense que c'est un entre-deux, que tu as tout à fait raison, qui moi aussi, c'est ma philosophie, c'est-à-dire que tu parlais tantôt du partage.
Oui.
Bien, si moi, mon talent peut aider... Par exemple, ma famille, je peux leur brancher leur ordinateur, ben ça va me faire plaisir de le faire. Eux, ils sont capables de faire des choses que moi, je suis pas capable, puis j'ai moins d'intérêt à faire. On peut pas, en tout cas, moi, c'est pas mon intérêt de devenir autosuffisante dans tout. Comme toi, je valorise l'expertise aussi dans plusieurs domaines.
Mais il y a des gens pour qui c'est particulièrement important. Je pense à une très, très grande amie à moi, ma best, comme on dit, qui, elle, a déjà mis 40 heures pour faire une chemise de scout pour son fils, alors que moi, je serais allée l'acheter. Et là, en ce moment, tu parlais de pain, là, en ce moment, elle essaie de me convertir à sa secte de gens qui font du levain.
Oh,
elle est déçue que je n'embarque pas là, dans tout ça. Mais pour moi, j'aimerais avoir cette fibre-là. Mais je me dis, bon, ben, du pain, il y en a chez le boulanger, puis il est mieux fait que ce que je ferai jamais.
Oui, puis tu sais, ça ne nous empêche pas d'essayer d'encourager le local, donc d'avoir des gens qu'on connaît, donc partager une compétence, puis acheter quelque chose qui est fait en Chine. Bon, ben, c'est différent que d'acheter chez ton boulanger. Moi, j'ai essayé de faire un masque. Hein, les fameux masques, là, les couvre-visage.
Oui.
Bon, j'en ai cousu un à la main, j'ai pas de machine à coudre, fait que j'ai fait ça à la main. Quand je couds, toujours avec une aiguille. Et j'ai trouvé ça long. C'était beaucoup d'efforts. Il est beau, mon masque, là, mon fils le porte, puis il l'aime beaucoup. Sauf que je me suis dit, ouais, je vais encourager le local, des gens qui ont une machine à coudre, qui font ça plus vite et mieux que moi. Je suis très satisfaite de ceux que j'achète.
Ben, probablement, effectivement, comme tu le dis, que l'équilibre est entre l'indépendance et l'interdépendance.
Oui, puis on n'est jamais limité. Hein. Si on veut apprendre, on a toujours le temps de le faire. Et je trouve que ça, c'est... Tu vois, cette pandémie nous a permis peut-être, pour certaines personnes, d'apprendre des choses qui n'auraient jamais osé même essayer de faire une baguette maison. Moi, je n'avais pas fait ça encore. Là, j'en fais régulièrement. Je trouve ça beaucoup plus facile que ce que je pensais. Puis tu vois, je m'y mets assez régulièrement. Donc, faire un jardin. Donc, ça nous a permis d'expérimenter. Puis je pense que ça, c'est important de savoir qu'on n'est jamais pris hein, avec ses propres compétences, qu'on peut toujours être dans l'apprentissage.
Excellent. Valérie, ça a été un plaisir de te recevoir à nouveau. Puis j'espère qu'on aura l'occasion d'explorer un nouveau thème prochainement.
Oui, bien, ça va me faire plaisir.